Bonsoir. Le ministre de Transport et Voies des Communications a retiré le week-end dernier des licences d'exploitation à 10 compagnies aériennes en RDC. Justin Kalumba explique que c'est une recommandation de l'Association des transports aériens internationales dans la perspective d'assainir le secteur de transport aérien en RDC dont les niveaux de sécurité et de sûreté est parmi les plus bas au monde. Comment analyser cette décision du ministre? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 mars 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Mwaka Mbwenzolo. Il est directeur adjoint de l'autorité de l'aviation civile. Monsieur Mwaka, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Marc Pajot, il est vice-président du comité professionnel des transporteurs aériens. Il est aussi directeur général de la compagnie africaine d'aviation CAA. Monsieur Pajot, bonsoir.
Bonsoir.
Et le commandant Ildefonso Ilunga, un des premiers pilotes de la RDC au sein de la compagnie nationale où il a assumé les fonctions de directeur des opérations et directeur de la formation des pilotes. Commandant Ilunga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Robert Baomé de Bukavu, au Sud Kivu. Cette décision du ministre national des Transports et Voies des Communications est une bonne chose. Cependant, je pense qu'il ne fallait pas que ce dernier attende le constat amer de l'Association internationale des transporteurs de transport aérien pour s'apercevoir du danger réel qui guette la sécurité dans les secteurs de transport aérien en RDC. Gouverner, c'est aussi prévoir, dit-on. Merci de nous suivre partout en RDC sous la Fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Des licences d'exploitation viennent d'être retirées à 10 compagnies d'aviation. Le ministre de Transport et Voies des Communications, qui a annoncé la nouvelle, indique que les aéronefs de ces compagnies, dont au moins la moitié opérationnelle, seront cloués au sol. Justin Kalumba explique que c'est une recommandation de l'Association internationale des transports aériens dans la perspective de l'assainissement de ces secteurs en RDC, dont le niveau de sécurité et de sûreté est parmi les plus bas au monde. Innocent Olinga nous en dit plus.
Les compagnies frappées par cette mesure de retrait des licences sont Air Baraka, Setraka Aviation Service, Gisair, Goma Express, General Transport Airways, Katanga Express, Lubumbashi Air Service, Pegasus Aviation, Sion Airlines et Trans-Congo Aviation. Le ministre des Transports et des Communications, qui mesure les conséquences de sa décision, déclare avoir fait un choix de la raison. Justin Kalumba.
Clouer ces compagnies au sol va certainement perturber, dans une certaine mesure, la mobilité des personnes et des biens. Par contre, laisser ces compagnies continuer à opérer expose les vies humaines. Laisser ces compagnies opérer mettrait à mal la sécurité aérienne. Puisque la vie humaine n'a pas de prix et que sa préservation constitue la priorité des priorités, nous avons fait les choix de la raison, c'est-à-dire les choix de la vie, les choix de la sécurité aérienne, les choix de la normalisation du secteur.
Il y a lieu de noter que toujours dans le cadre du processus de recertification en cours, d'autres compagnies pourront être frappées si leurs dossiers sont rejetés aux phases 3 et 4 relatives respectivement à l'évaluation des documents et à la démonstration et à l'inspection.
Merci Innocent Olinga. Monsieur Mwaka Mbwenzolo, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'autorité de l'aviation civile. Le ministre, vous l'avez suivi comme tout le monde, le ministre vient de retirer à 10 compagnies d'aviation congolaises des licences d'exploitation. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à ces compagnies?
Eh bien, merci bien, madame. Je crois effectivement que c'est depuis le 19 novembre 2007 que le président du conseil de l'OACI avait demandé à la RDC de prendre un train de mesures, parmi lesquelles, effectivement, il y avait un certain nombre de choses à mettre en place pour que notre système de supervision de l'aviation civile soit efficace, crédible, et cela de manière durable. Et donc, il a fallu qu'au fur et à mesure, on mette en place les éléments qui devaient permettre à ce que l'on puisse faire le travail de certification, à savoir il fallait qu'on ait une loi. C'est depuis le 31 décembre 2010 que nous avons une loi sur l'aviation civile. Il fallait qu'il y ait une réglementation en place. Cela a été préparé après la loi. Il a fallu qu'il y ait des procédures parce que, en fait, le travail qui est fait doit se faire de manière structurée, documentée et offrir une traçabilité. Il y a un travail qui a été fait en aval. Ensuite, une fois que on a mis en place la loi, le règlement, les procédures, les checklists indispensables pour faire le travail, il a fallu qu'il y ait une organisation et une administration pour pouvoir le faire. C'est ce qui a été fait aussi. Il a fallu qu'il y ait en place du personnel formé et qualifié. De ce côté-là, comme pour les inspecteurs, on avait quelques difficultés, le gouvernement et la Banque mondiale ont recruté des consultants. Le gouvernement a recruté le consultant APAV et la Banque mondiale a recruté le consultant IATA pour venir assister l'autorité de l'aviation civile à faire le travail de certification. Ce travail de certification, une fois qu'on a eu en place maintenant, là, assisté par les consultants, ainsi qu'on a préparé avec le consultant tout ce qu'il y avait comme guide et documents indispensables pour faire une bonne certification. Ce travail a démarré, donc, de certification depuis avril 2013. D'abord par le consultant IATA et puis après par le consultant APAV qui est venu quelques mois après. Et ce travail qui est en train d'être déroulé. Ce travail se déroule en 5 phases. Il y a une première phase où chaque opérateur, parce que ce travail concerne toutes les compagnies aériennes de la RDC. Alors, il se fait en 5 phases. La première phase sera une phase où on explique à la compagnie. C'est la pré-candidature. On explique à la compagnie comment la certification va devoir se faire. On lui donne tous les éléments qu'il va devoir faire pendant cette phase-là.
Est-ce que c'est une nouvelle certification ou c'est toujours celle qui a toujours existé?
Effectivement, si vous avez bien compris, en 2007, le 19 novembre, lorsque le président du conseil de l'OACI écrit au ministre des Transports, il demande de mettre en place une législation, une nouvelle législation, c'est ce qui a été fait. Donc en 2010, le 31 décembre 2010, la RDC a une loi sur l'aviation civile. Ça devait être fait sur base d'une nouvelle réglementation. C'est partant de cette loi qu'on a préparé une nouvelle réglementation qui quasiment s'aligne aujourd'hui sur le règlement de l'ensemble comme les autres États. Donc si vous avez compris tous ces éléments, ça signifie que la certification qui se fait aujourd'hui en RDC, c'est la première fois qu'elle se fait de cette manière-là. Et c'est ce qui est demandé. C'est de cette manière qu'on s'aligne, qu'on se conforme à ce que demande l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc je disais, tantôt de parler des étapes, la première qui est celle de la pré-candidature, la deuxième, parce que le postulant a compris, maintenant il peut faire la demande formelle. Il fait la demande formelle et introduit un certain nombre d'éléments demandés, exigés. Après la demande formelle, lorsque on a passé cette étape-là, on passe à la troisième phase qui est la revue documentaire. En ce moment-là, on revoit, on analyse, je peux dire ligne par ligne, toute la documentation qui est introduite par le requérant. Et une fois qu'on a été satisfait au niveau de la documentation, c'est alors qu'on passe à la quatrième phase, qui est la phase de l'inspection opérationnelle et la démonstration. Ça signifie qu'à ce stade-là, les inspecteurs vont sur le terrain et vont vérifier si tout ce qui a été déclaré, décliné dans la documentation, est bel et bien en place. C'est alors effectivement qu'on émet un avis. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'arrive pas, on ne passe pas l'étape 2, tant que l'étape 1, on n'a pas réussi à satisfaire. On ne passe pas l'étape 3, si à l'étape 2, on n'a pas réussi. On ne passe pas l'étape 4, si à l'étape 3, on n'a pas réussi. Alors, il y a une chose que nous avons
dit. Là, nous sommes à la quatrième étape, la cinquième, puisque vous avez retiré déjà les licences d'exploitation.
Si vous me laissez un peu terminer.
On n'a pas, c'est un débat, monsieur Mouaka.
Non, c'est très rapidement. Il faut que les gens comprennent, parce que sinon, c'est là que j'ai dit le mot-clé. Au fait, aujourd'hui, quelqu'un qui, après un certain nombre de fois, s'est présenté à l'étape 1 et n'a pas satisfait, il y a des délais qui sont fixés. Il sort du processus. Et pour celui-là, effectivement,
Pour la première étape, il y a une compagnie qui n'avait pas réussi. Et elle est sortie du processus. Et maintenant, on est arrivé à la deuxième étape. C'est à cette deuxième étape qu'il y en a 10 qui n'ont pas réussi à satisfaire. On va passer donc maintenant à la troisième étape. Ce sont ces 10-là qui sortent. Donc le consultant a donné des avis. Le consultant APAV a donné des avis. Et ce sont des avis qui indiquent que les 10 compagnies n'ont pas satisfait la deuxième phase. Et c'est donc ces 10 compagnies qui quittent le processus.
Merci, Monsieur Macon. On va revenir à vous. Jean-Marc Pajot, je rappelle que vous êtes vice-président du comité professionnel des transporteurs aériens. Vous êtes aussi directeur général de la compagnie africaine d'aviation. Comment vous analysez-vous cette décision du ministre?
C'est une bonne décision. Je pense qu'on peut, applaudir le ministre qui est un ministre qui comprend en fait les enjeux de l'aviation. Il a compris les enjeux de la sécurité et je crois qu'il a mis en place les leviers politiques qui sont nécessaires à dérouler un processus qui va, étape par étape, améliorer la sécurité et l'amener au niveau des d'autres pays et donc de rencontrer l'harmonisation des normes internationales. Comme vient de le dire Monsieur le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile, on a maintenant un processus de certification. C'est ce qu'on appelle nous-mêmes une recertification, parce qu'avant, il y avait déjà eu une certification de par le passé, mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est une certification qui rencontre les recommandations et standards des normes internationales émises par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. À chaque fois, c'est un examen de passage. Chaque phase est, éliminatoire. Donc, si un exploitant, une compagnie aérienne, présente une phase et que, malheureusement, elle ne réussit pas ou elle ne rencontre pas les critères requis par la réglementation congolaise, puisque même si nous avons aujourd'hui des experts internationaux qui nous assistent et nous guident dans cette phase de certification, c'est la loi congolaise qui aujourd'hui a été harmonisée aux lois internationales, aux normes internationales. Eh bien, si à chaque phase, un exploitant ne rencontre pas les critères requis par cette phase, en fait, il sera exclu de cette phase et il n'aura d'autre choix, et le ministre n'aura d'autre choix que de retirer la licence d'exploitation de cette compagnie. Cette compagnie sera clouée au sol, définitivement. Et donc, eh bien,
Si elle arrivait à remplir les critères par après.
Vous savez, quand on passe une phase de certification, il faut rencontrer plusieurs choses. Il faut d'abord rencontrer une conformité et il faut rencontrer un délai. C'est comme un examen en université. En fait, vous pouvez.
Il y a des repêchages après quand on échoue un examen.
Oui. En fait, ici, on n'a pas la possibilité de faire ces repêchages. On doit être prêt. L'aviation civile, le transport public, c'est pas quelque chose qu'on peut faire par hasard. Il faut être conforme. C'est pas des essais qu'on doit faire. Il faut remplir les conditions et remplir ces conditions dans un délai.
Alors ces transporteurs, toutes ces aviations qui se sont vues retirer leur licence, ils font partie du comité professionnel de transporteurs aériens, la structure dont vous êtes vice-président.
Oui, en fait, le comité professionnel des transporteurs aériens est une confédération qui se situe au sein de la FEC, donc de la Fédération des entreprises du Congo. Pour être membre de ce comité professionnel de transporteurs aériens, d'abord il faut en avoir fait la demande et il faut se mettre en règle d'une cotisation annuelle. Et donc se retrouveront autour de la table en fait les compagnies qui le désirent et qui veulent participer à l'évolution ou se mettre ensemble pour discuter, pour débattre des différents challenges c'est surtout une structure qui permet d'échanger avec le gouvernement. Alors toutes ces autres compagnies ne sont pas membres du comité professionnel des transporteurs aériens, mais
il y en a quand même qui font partie de du comité professionnel.
En fait, le comité professionnel des transporteurs aériens est réparti dans les différentes provinces de la République. Dans les compagnies qui ont été citées, on retrouve des compagnies qui sont plutôt Katanga, qui sont à l'est du pays. Je pense que sur Kinshasa, je pense qu'on parle de deux ou de trois maximum. Ils ont déjà assisté à des comités en tant que visiteurs, mais eux-mêmes n'étaient pas membres de ce comité. Il faut savoir que dans le comité professionnel des transporteurs aériens, vous avez surtout les grandes compagnies de transport de ligne, donc de transport public, ligne et cargo, et donc ce sont les je dirais dans les 10-12 premières compagnies congolaises en termes de revenus de transport de passagers et de transport de fret.
Alors une petite question en passant, vous avez salué la décision du ministre. J'ai dit que vous étiez le directeur général de la compagnie africaine d'aviation. Si cette votre compagnie était touchée par la mesure, vous auriez la même réaction?
Je serais obligé de me plier. Donc nous faisons partie d'un premier groupe. Donc la recertification s'est divisée en deux groupes. Le premier groupe de certification, on a démarré au mois de mai. C'est un groupe qui est sponsorisé. Donc cette certification est sponsorisée par la Banque mondiale et qui ont fait appel au consultant IATA, donc de l'Association internationale du transport aérien. Et il y avait dans ce groupe 5 compagnies. Donc il y a la compagnie africaine d'aviation, il y a la compagnie Air Tropic, la compagnie Kinavia, la compagnie Itab et la compagnie Corongo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe 1. Ce groupe 1 a déjà passé la phase 1 et la phase 2, donc la déclaration préalable et l'évaluation de ce qu'on appelle des postholders, donc des postes dirigeants, des responsables, savoir s'ils sont à la hauteur de leurs responsabilités. Et ces 5 groupes sont maintenant en train de dérouler la phase 3, qui est la production, la remise documentaire. Et donc maintenant, aujourd'hui, l'aviation civile, la direction de l'autorité de l'aviation civile est en analyse de ces documentations pour ces 5 compagnies.
Merci Jean-Marc Pajot. Le temps pour moi de passer la parole au commandant Ildefonso Ilunga, un des premiers pilotes de la RDC au sein de la compagnie nationale, où il a assumé les fonctions des directeurs des opérations et directeur de la formation des pilotes. Commandant Ilunga, quelle est votre lecture par rapport à la décision du ministre des Transports qui a retiré la licence d'exploitation à 10 compagnies aériennes en RDC dans le but d'assainir ces secteurs?
Oui, madame, je dois dire bien sûr que je suis content d'entendre cette décision prise par le ministre, mais je ne suis pas étonné, sauf que je dois dire que ce n'est pas aujourd'hui que cette décision devait être prise. Cette décision devait être prise déjà, je crois, à partir de 1978, puisque avant, il y avait la compagnie nationale Air Congo, que j'ai trouvé ici quand moi je suis arrivé, et qui respectait les normes et recommandations de l'OACI. Je crois que mon ami Mwaka, qui est sur le plateau, et même mon ami Pajot qui est là, peuvent certainement ne pas me contredire. La compagnie nationale respectait vraiment toutes ces normes que l'OACI est en train de demander aujourd'hui. Nous avions une licence qu'on nous avait donnée, et avec cette licence, on pouvait exploiter en toute sécurité tout ce que l'OACI nous demande. Malheureusement, il y a eu la libéralisation dans l'aviation civile. À partir de cette libéralisation, on a commencé à créer des compagnies aériennes privées, que moi j'appellerais commerçantes. Je ne veux pas vraiment les traiter d'une façon péjorative, mais ce sont des braves opérateurs qui ont voulu aussi quand même faire de l'aviation comme on s'est fait partout. Malheureusement, ces normes aujourd'hui que l'OACI ou l'IATA nous demande devraient être demandées à toutes ces compagnies aériennes en 1978 quand on a libéralisé. C'est là qu'on devrait déjà être sévère et strict et retirer la licence ou n'importe quel document en matière d'aviation civile, lorsqu'on ne respectait pas les normes. Les normes, il y en a beaucoup, sur le plan sécuritaire, sur le plan opérationnel, sur le plan technique. Ce sont des choses que l'OACI a recommandées depuis que l'OACI existe. Nous avons même été d'ailleurs taxés de pays vraiment mais à haut risque, alors que nous avons un secteur qui s'appelle aviation civile. La direction de l'aviation civile a toujours existé. Mais si elle avait respecté toutes ces normes-là, nous ne serions pas arrivés à entendre aujourd'hui parler de permis d'exploitation. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la licence qu'on demande, puisqu'on dit la licence ne vaut rien. Il faut, en plus de la licence d'exploitation, vous devez avoir un permis d'exploitation. Et le permis d'exploitation est beaucoup plus beaucoup plus, ça dit beaucoup plus explicite. C'est là qu'on demande plus à une compagnie aérienne. Si vous ne respectez pas, suivant les phases qui ont été décrites d'ailleurs par M. Maka et le DG Pajot, hein, si vous ne respectez pas cela, bien sûr, que ce soit même la compagnie nationale là qu'aujourd'hui ou n'importe quelle compagnie, qui ne respecte pas, on est obligé absolument de retirer son document. Hein, ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. L'aviation que nous faisons est un domaine extrêmement délicat et nous devons absolument suivre ce qu'on nous dit. Vous voyez aujourd'hui les accidents qui sont au monde. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces accidents-là qu'on a semblé se réveiller chez nous. Alors que quand nous nous volions, nous ne faisions pas d'accidents, mais nous pensions à tous ces accidents qui pourraient éventuellement arriver. Et il fallait prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas. Ainsi, nous avons fait sans faire aucun accident. Et si aujourd'hui nous avons vu des accidents arriver, nous, chez là, que nous n'étions pas du tout étonnés, malheureusement, le personnel qui composait, qui faisait partie de l'AC, était un personnel formé. Nous ne faisions pas une aviation sans personnel qualifié, formé. La plupart d'ailleurs de tous les agents qui sont, que ce soit chez Pajot, hein, chez CA ou bien à l'aéronautique civile, viennent de la compagnie nationale. Donc chacun savait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait seulement les motiver d'une façon correcte, de façon qu'ils continuent à ne pas brader ce métier en se laissant corrompre par des commerçants qui arrivaient pour obtenir ou bien pour mettre une compagnie sur place. Il fallait absolument qu'ils passent par des corruptions. Alors que si on les avait habitués à respecter tout ce que l'OACI demande aujourd'hui, ben on ne serait pas arrivé à vivre ce que le médecin, chose, le ministre vient de prendre comme décision.
Et donc, on peut dire que c'est un manque de rigueur de la part des autorités congolaises.
Je l'ai toujours répété, madame. Depuis 1980, je n'ai fait que répéter cela. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, le ministre, j'aurais voulu, hein, il a fallu qu'il soit là en 1978. S'il était là, je crois que c'est qu'il est en parce qu'il est de très bonne volonté. Il voit que ça ne peut pas continuer comme ça, donc il faut arrêter.
Alors, quoi, commandant,
s'il était là à partir des choses de 1978, mais je crois qu'il aurait vraiment assaini ce secteur sans problème. Aujourd'hui, on dit on assaini, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on va former d'abord tout ce personnel qui doivent assainir justement ce secteur? Ce ne sont pas les papiers ni les licences, ce sont d'abord le personnel pour respecter tous ces papiers-là.
Alors, commandant Ilunga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Henri Moussumba de Lubumbashi au Katanga. La décision du ministre de Transport est à saluer. Mais le problème dans notre pays n'est plus les textes, mais plutôt leur application. Les opérateurs aériens n'ont pas de problème, car le problème se trouve au sein même de nos autorités qui ne cherchent qu'à gagner des commissions dans le traitement des dossiers. Notre pays a un sérieux problème d'aviation, car peu des compagnies. Je sollicite à ce sujet une négociation à l'amiable, sans commission ni intérêt personnel, avec tous les opérateurs, car le mal est profond et il faut savoir soigner une maladie par sa cause et non par ses symptômes.
Alors cet auditeur de Lubumbashi vous rejoint un peu dans vos analyses.
Absolument, madame, il a tout à fait raison. Je n'ai même pas à commenter là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Si nous avions un personnel bien formé qui sait faire respecter ces normes-là à qui que ce soit, je crois qu'au niveau de l'aéronautique civile, en commençant par mon ami DG Mwaka, qui est d'ailleurs très très regardant en cette matière aussi, mais ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées aujourd'hui. Pour moi, je suis même gêné d'entendre qu'on doit assainir aujourd'hui, on doit arrêter des compagnies aériennes aujourd'hui. Bon, c'est bien, il faut le faire, mais c'est trop tard.
Merci, commandant Ilunga, monsieur Mwakam Bunzolo. Il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Sipe Bokanga, depuis Kisangani, à province orientale. Moi, je pense que la décision des ministres est bonne. Mais quelle est la mesure palliative prise afin de résoudre les besoins ressentis par la population? Parce que, à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas même une compagnie aérienne. À cet effet, toute cette insécurité est occasionnée par l'irresponsabilité de ces derniers. J'espère que cette mesure politicienne au fait au nom à la cause. À résumer, je conclue à disant, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'air de ton prochain, marcher par la poutre se trouvant sur ton air.
Vous avez compris la préoccupation de cet auditeur, Monsieur Mwaka, qui pense qu'au lieu de s'attaquer aux causes, vous attendez qu'il y ait d'abord des conséquences pour vous trouver maintenant des solutions au problème, alors qu'il faut s'attaquer déjà à la cause.
Madame, si nous avons été eu un peu plus de temps, nous avons parlé au début du système. C'est le système en place qui était mauvais. Notez, madame, depuis 1960 que nous sommes indépendants, le texte qui, jusque-là, a été le texte de base que l'aviation a utilisé, c'est un texte de 1955. C'est-à-dire que ce texte réglait le problème de l'aviation de 1955. Et quand nous arrivons en 2010 pour avoir la loi fondamentale sur l'aviation civile, vous comptez les années, madame. Ça signifie qu'en fait, quand la législation pose problème, quand les éléments qui constituent le socle pour qu'on ait une bonne supervision de l'aviation civile, quand il manque, madame, même quand il n'y a pas accident, il y a des éléments latents qui sont là. Et aujourd'hui, je crois que on a pris les choses par le bon bout, en commençant par mettre en place les éléments. Je crois que le commandant, il est en train de parler, il a parlé, c'est vrai, aujourd'hui on recourt à des consultants. Mais
je peux vous assurer que c'est difficile de former un personnel qui pourrait aider, par exemple, votre structure, l'autorité de l'aviation civile, à pouvoir assainir ces secteurs.
Eh bien, pendant que nous sommes en train d'être aidés par des consultants, nous avons mis aujourd'hui 15 personnes qui sont des experts congolais, qui sont en train d'être formés pour que aujourd'hui ils sont au stade de stagiaires, demain ils seront des juniors, et après ils deviendront des seniors.
15, c'est suffisant?
Mais il faut commencer quelque part, madame.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour former un grand nombre de Congolais?
La mission que nous avons confiée aux consultants, c'était de venir et de faire cette tâche-là, et pendant qu'ils le font, on the job training, en cours de certification, nous formons les nôtres, et aujourd'hui il y en a 15. Qui sont en train d'être formés et qui sont en train de préparer pour que demain, ce soit eux qui puissent conduire la certification de nos compagnies aériennes. Parce qu'au fait, si vous voulez, quand on parle de la supervision, le travail de l'aviation civile, les principales tâches, ce sont les tâches de certification, de surveillance continue et de la prise en compte de tout ce qu'il y a comme problème de sécurité. C'est ça le travail de l'aviation civile. C'est comme ça qu'on peut le résumer, si vous voulez. Mais pour pouvoir le faire, il faut être formé et qualifié. Il y a des gens qui ont suivi de cours théoriques, madame, mais qui n'ont jamais pratiqué. Pour eux, c'est la première fois qu'ils sont en train de pratiquer, qu'ils sont en train de regarder comment ça se fait sur le terrain. Ils sont en train d'être formés. Je crois effectivement que toutes ces dispositions ont été prises parce que on ne va pas vivre en permanence de l'assistance. Il faut que le système qu'on met en place, nous l'avons dit, qu'il soit crédible, mais qu'il soit durable aussi.
Alors, Monsieur Mwaka, il y a un autre problème, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez retiré la licence d'exploitation à ces 10 compagnies pour le moment. J'imagine qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, s'ils ne remplissent pas les conditions.
Mais je crois que, madame, le principe, il est clair. Lorsque quelqu'un, dans un délai donné, n'a pas réussi ce qu'on lui a demandé, il quitte le processus. Avec les mêmes conséquences. C'est ce que le ministre, je crois qu'il a dit dans son point de presse.
Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte que ces compagnies dont vous avez retiré la licence puissent renaître sous un autre nom?
Bon, madame, à partir du moment où une compagnie remplit les conditions, quand elle revient, quand elle remplit les conditions, nous ne sommes pas là en réalité pour pouvoir bannir. Ce n'est pas un bannissement qui est fait. Lorsqu'une compagnie remplit les conditions et passe par les étapes, c'est normal qu'on puisse la certifier, madame. C'est tout à fait normal.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction. C'est pour vous, monsieur Jean-Marc Paljo, qui nous vient de Mbujimayi au Kassai oriental.
Galvani Kiyou, placide à Mbujimayi au Kassai oriental. La décision du ministre des Transports est bonne et aussi justifiée vu l'état actuel des aéronefs qui volent dans les ciels congolais. Au lieu d'être sécurisants dans les airs, sont plutôt un danger de mort. Ce qui place la RDC sur la liste noire dans les transports aériens par l'Union européenne. Cependant, cette décision aura plus de répercussions, notamment la hausse du prix du vol aérien, car celui-ci est le monopole des compagnies privées. La compagnie aérienne officielle étant encore en gestation dans les tiroirs. D'où son mesure d'accompagnement, cette décision, à la place d'être une sécurité, elle sera une asphyxie pour la population.
Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, il y a deux questions dans ce message. La première question, c'est relative d'abord à la liste noire. Donc, juste un éclaircissement pour la liste noire. Une liste noire, un pays qui est sur une liste noire, c'est une souveraineté qui est sur une liste noire. On parle toujours des compagnies, mais ce n'est pas seulement les compagnies. Une compagnie est blacklistée par l'Union européenne si elle dépend d'un pays qui est blacklisté. Donc, si l'Union européenne donne un avis défavorable à un pays et le met sur une liste noire, toutes les compagnies aériennes qui sont présentes dans ce pays sont automatiquement sur cette liste. Et donc, cette liste a été créée en mars 2006. Il y a également une liste identique, enfin, à peu de choses près, aux États-Unis. Donc, ça pose déjà un préjudice économique pour les compagnies aériennes congolaises qui avaient une aspiration ou un appétit international. La deuxième chose...
Par rapport à la hausse du prix du billet.
La hausse du prix du billet, elle découle de cette liste noire. Parce que quand vous êtes sur une liste noire, déjà, les assurances ne sont plus vendues au même prix. Donc là où je vais peut-être payer 0,5% ou 1% de mon avion en Europe pour faire du transport, ici, ça va être multiplié par 3, voire 4, voire 5, voire peut-être même 10. Il y a des assurances qui sont obligées de tarifer à 10% du prix de l'avion si le risque est élevé. Donc un pays, la connotation d'une liste noire, ça a déjà deux impacts immédiats. C'est l'explosion du prix des assurances. Et deuxièmement, c'est la connotation négative vis-à-vis du transport du passager, puisque le passager, maintenant, il y a des compagnies internationales telles que des compagnies qui sont présentes ici au Congo et qui n'ont pas le droit de voyager au travers de ces compagnies. Donc, il y a une pénalité économique. Et la troisième pénalité, bien sûr, c'est de ne pas pouvoir voler à l'international et de voler vers l'Europe. Donc, le coût du billet, aujourd'hui, il faut pas prendre de raccourcis. La tarification d'un billet au Congo dépend d'une grille tarifaire.
Qui n'est toujours pas respectée.
Qui n'est toujours... En fait, la grille tarifaire, c'est une... Vous savez qu'au Congo...
Chaque compagnie a son tarif.
Voilà. Au Congo, nous avons... c'est le ministère de l'économie et du commerce qui a la tutelle des quatre secteurs stratégiques congolais. Donc c'est le carburant, c'est l'hydroélectricité, les mines et les compagnies aériennes. En 2004, le ministère de l'économie et commerce, le 3 novembre 2004, a produit un arrêté qui est l'arrêté 019 et qui a défini de manière claire le tarif d'un billet. Donc, c'est pas très compliqué. Vous savez que, en 2004, le prix du carburant à l'époque était à 0,7$ le litre. Les avions consommaient à peu près entre 5 et 6 000 litres à l'heure de vol. Le taux de remplissage d'un avion était de l'ordre de 60%. Le coût des assurances était avant la liste noire, donc était bien moindre que maintenant, etc. Donc, il y avait tout un travail qui a été fait sur l'identification de tous ces paramètres. Et ces paramètres ont permis de définir des facteurs de calcul de billets. Alors, je vous donne un exemple. Pour le transport passager, le facteur de l'époque était de 0,23 cents le kilomètre par passager. Donc, je prends une distance Kinshasa-Lubumbashi, 1550 km. Eh bien, on multiplie 1550 km par ce facteur qui avait été déterminé en 2004, fois 0,23, et ça nous amène à peu près à $450 le billet. Hors TVA, donc la TVA a été rajoutée, donc on arrive à peu près 480$, et plus les taxes d'atterrissage. Donc c'est très facile aujourd'hui de définir le prix d'un billet. Alors
merci.
C'est vrai que depuis 2000, quelques années, il y a eu de la compétition et les compagnies ont quitté cette grille tarifaire pour des aspects, parce qu'il y a eu des bagarres sur le marché. Et finalement, on a fait un mauvais exercice. On a laissé les compagnies voler. Et le résultat aujourd'hui, c'est que il y a des compagnies qui ne sont même pas arrivées à la phase de certification, qui sont tombées en faillite avant.
Merci Jean-Marc Pajot. Quelles pourraient être les conséquences et la décision du ministre des Transports et des Voies de Communication sur la population pour le président de la Ligue des Consommateurs? Il est bon d'assainir ce secteur, mais se demande quelles solutions palliatives le ministre propose en ce qui concerne les coins du pays que desservaient ces compagnies aériennes. Rien qu'ils sont vus retirer leur licence. On écoute Georges Kombotunga au téléphone de Samuel Kachaka.
Nous sommes des consommateurs. Nous avons grandement besoin de moins de transport parce que ça fait défaut. Il n'y en a pas. Vous avez beaucoup de territoires congolais qui ne connaissent pas le transport aérien. Le ministre de ce côté-là peut avoir raison s'il veut assainir l'espace. Mais il faut aussi penser au palliatif, c'est-à-dire substitut. Au moment où on veut décourager le malfaiteur du secteur, il faut que l'État congolais assure sa population en mettant à sa disposition des moyens de transport aérien adéquats.
Alors, commandant Ilunga, un commentaire sur ce point de vue du président de la Ligue des consommateurs.
Oui, madame, le président a tout à fait raison. Je dois plutôt dire ceci que le ministre, bien sûr, en prenant cette mesure, il a beaucoup de choses de travail à faire. Avant de prendre cette mesure, je crois que le pays a besoin du personnel, comme je l'ai dit encore. On doit former les pilotes. On doit former le personnel qui travaille, bien sûr, autour de cet avion. Les pilotes, il faut compter 10 ans au moins minimum avant qu'ils deviennent vraiment des responsables dans un avion. Parce que les moyens de transport, les avions, existent partout au monde. Vous avez de l'argent, vous allez dans les parcs, vous trouverez ces avions-là. Vous allez chez les constructeurs, vous allez trouver. Mais quand vous viendrez les mettre sur le marché, qui va piloter ces avions-là? Quel est ce personnel? Est-ce que ce personnel est préparé? Depuis longtemps, j'ai toujours dit qu'on crée des écoles ou une école nationale ou deux ou trois écoles nationales d'aviation civile pour former le personnel en cette matière-là. On ne peut pas inventer dans ces secteurs-ci, inventer un personnel. Non, on les forme. Et la formation prend du temps. Et le ministre attendra en même temps que nous, au lieu de croire que, puisque nous allons assainir, du jour au lendemain, tout le monde va réussir ou va perdre cet examen qu'on est en train de nous tendre. Cet examen doit exister. Mais il faut quand même des personnes capables de pouvoir venir, ne fût-ce que la moitié puisse passer cet examen-là. Mais si déjà des gens tâtonnent, comme d'ailleurs j'ai même entendu, beaucoup tâtonnent, beaucoup d'ailleurs n'osent même pas se présenter à cet examen, c'est parce qu'ils savent que dès le départ, déjà, ils n'étaient pas préparés. Alors, il faut que le ministre pense à mettre des structures, c'est-à-dire des écoles, où l'on forme le personnel. Il faut qu'on forme. Et je ne fais que répéter, je peux même répéter ça 100 fois. Achetons des avions, c'est bien, mais préparons nos enfants. Depuis, je vous donne l'exemple. 1966, je suis arrivé avec Diassola, nous sommes que deux. C'est le seul moment où notre gouvernement national a formé des pilotes en sortant de leur poche. De l'argent pour former ces deux pilotes-là, Ilunga et Diassoloa. Depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer, allez consulter, vous verrez que le gouvernement n'a pas formé deux pilotes en plus d'Ilunga et Diassoloa avec le fonds de la chose de la République. Donc vous voyez, nous avons un problème très sérieux. Aujourd'hui, allez dire, bon, nous allons atteindre, c'est bien. Mais si moi j'ai envie d'acheter mon avion aujourd'hui pour faire mon affaire, parce que le commerçant, lui, comme vous voyez d'ailleurs quand DG Pajot vous parle, il vous parle des éléments qui sont probants, qui sont vraiment importants dans la compagnie. Bon, ça, il peut expliquer toi dans des collèges ou dans des universités. Mais à l'heure actuelle, il est commerçant. Lui, il a besoin d'acheter son avion et d'opérer en toute sécurité. Mais pour le faire en toute sécurité, il a besoin du personnel,
merci,
soit locaux, soit étrangers. N'ayant pas de locaux, ils sont obligés de recourir à du personnel étranger.
Merci, tout commandant Ilunga.
Une école. Vous voyez les grands problèmes, madame.
Merci, commandant Ilunga. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Monsieur Mwaka, il y a patient Paul Ngoyi qui dit ceci en suspendant ses compagnies. C'est favoriser aussi d'autres affaires, doubler leurs billets. Si vous prenez une mesure, sachez aussi gérer les conséquences pour que la population ne soit pas victime. Nous ne voulons pas subir des conséquences auprès de ces commerçants assoiffés d'argent, Mathieu Barmouer et de Goma au Nord Kivu. La décision du ministre des Transports est bonne, car du temps, mieux vaut prévenir que guérir. Malheureusement, l'État n'a aucune compagnie qui pourra faire la relève de toutes ces compagnies qui se sont vues retirer leur licence. J'aimerais savoir quelles seront les mesures d'accompagnement. Vous savez, la population s'inquiète un peu par rapport à qui prendrait la relève si ces compagnies aujourd'hui ne desservent plus les coins qu'ils desservaient avant. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez tenu compte des conséquences que pourrait avoir cette décision?
Je crois que Madame le ministre d'entrée de cette émission a répondu à cette préoccupation. Il y a un choix qui a à faire. Et ce choix n'est pas facile à faire. Mais je crois que devant ces réalités-là, la vie humaine mène qui n'a pas de prix, pour reprendre les mots du ministre. La préservation constitue la priorité des priorités.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la sécurité en règle. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y a rien qui est initié au niveau du gouvernement pour que par rapport à la mobilité qu'il faut à tout prix assurer hein, aux personnes et aux biens. Et je peux vous assurer, madame, que lors d'une prochaine émission, parce que maintenant le temps est court, je crois effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et je crois effectivement qu'au niveau aussi des compagnies aériennes qui sont dans la course, il y a une prise de conscience. Je crois effectivement que c'est une réalité qui aujourd'hui est gérée à plusieurs niveaux. Je reste convaincu que la mobilité des personnes et des biens, si pendant un moment on pourra, étant donné que la demande sera plus importante, peut-être parce que les compagnies qui sont en place sont peut-être un peu... Je crois effectivement qu'il y a un choix qu'il fallait faire. Le ministre a fait le bon choix. Tout le monde est en train de le dire.
Et où en est-on avec la relance de l'AC, rapidement, en un mot?
Avec la relance de l'AC, je crois que le commandant Ilunga est mieux placé pour pouvoir vous répondre.
Merci. Jean-Marc Pajoureux, nous sommes presque à la fin de notre émission. Comment avoir un réseau fiable ou des compagnies aériennes qui répondent aux normes en RDC?
Écoutez, mettre en place un réseau aérien dépend de deux facteurs. D'un côté, c'est le facteur prioritaire, c'est miser tout sur la sécurité, à tous les niveaux, sur toute la chaîne d'exploitation, à partir du management, jusqu'au personnel sur le terrain. Donc c'est une chaîne complète de tout le personnel qui travaille dans une compagnie, de tous les sous-traitants qui travaillent avec la compagnie, et surtout des avions que l'on choisit, des formations que l'on donne à nos équipages, à nos mécaniciens, à nos contrôleurs. Donc la règle, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le système de gestion de la sécurité. C'est la mise en place d'un système de gestion de sécurité où on se met la main dans la main avec le gouvernement qui doit mettre en place son plan national de sécurité. L'autorité de l'aviation civile doit également mettre sa supervision continue qui fait partie de ce qu'on appelle le système de gestion de sécurité. Ça s'appelle le SMS. D'accord. Et nous, si je parle au niveau on en parle beaucoup au niveau du CPTA, donc je veux dire les compagnies ont vraiment pris conscience de cet élément. Nous sommes en phase d'implémentation. Bien entendu, tout cela a un coût. Donc bien sûr, et il faut toujours gérer en fait entre la chèvre et le chou, savoir de Merci. Privilégier la sécurité tout en respectant
Merci.
Le budget.
Merci Jean-Marc Pajot. Commandant Ilunga, ça sera aussi votre conclusion. Je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un réseau fiable ou des compagnies aériennes qui répondent aux normes?
Bon, madame, je crois que mes deux collaborateurs ont déjà répondu à ça. Ce que je dois seulement demander, comme je viens de le dire, pensons, bien sûr, c'est la sécurité que nous devons défendre. Pensons à mettre, une gestion dans des écoles bien déterminées pour former nos personnels de façon à ce que nous puissions assurer cette exploitation d'une façon saine et sécuritaire.
Merci, commandant Ilunga. Monsieur Mwaka Mvunzulu, combien de compagnies d'aviation avons-nous en RDC aujourd'hui?
Les compagnies en course listées pour la certification sont à 35.
35, moins les 10 qui se sont vus retirer leur licence?
Moins 11.
Moins 11.
Parce qu'il y en a une qui était sortie à la première phase.
Merci, M. Mwaka. Je ne sais pas si vous avez un mot par rapport à ce qu'il faut faire pour rendre fiable ce secteur d'aviation.
L'action aujourd'hui de pouvoir mettre en place un système crédible de supervision de la sécurité aérienne, et cela de manière durable, est en train de se mettre en place. Le gouvernement est au travail. C'est des choses au départ qui n'étaient pas immédiatement perceptibles, mais au fur et à mesure, je crois que c'est une action qui est en train de progresser.
Merci. Excusez-moi de vous arrêter, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.